Alors nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 27. Jésus sait qu'il va être renié, vendu, abandonné, fouetté, crucifié, etc. Une souffrance indicible. Et regardez ce qu'il dit aux hommes et ce qu'il nous dit encore ce soir. Jean chapitre 14 verset 27. Regardez cette parole pleine d'amour. Ah oui, on peut dire merci pour la croix. Vous pouvez le dire 250 millions de fois. Je pense que cela sera en accord avec sa volonté. Jean chapitre 14 verset 27. Je répète, Jésus va souffrir, il va mourir, il va être abandonné. Il va, comme on ne peut pas s'imaginer. Et regardez ce qu'il dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Amen. Je vous donne ma paix. Voilà ce qui se passe lorsque des hommes et des femmes se retrouvent autour de la parole de Dieu. Le Seigneur a tout le temps le même pouvoir. Il l'a dit avant de remonter au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et s'il y a une chose que le Seigneur peut et veut faire, c'est que par sa parole, parce que c'est ça, vous obteniez, vous réobteniez, vous receviez ce que Dieu veut vous donner. Je vous donne ma paix. C'est pas parce que Dieu nous donne quelque chose qu'on le prend. Beaucoup de gens sont venus dans des réunions, ils avaient envie d'une victoire, ils avaient envie d'une bénédiction, et quand Dieu la leur a présentée, ils ne l'ont pas pris. Parce que quand on prend quelque chose, si je vous dis, tiens, je vous donne un chèque de 10 000 euros. C'est une image, hein? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Comment? Mais il faut le prendre. Et à quoi vous saurez que vous l'avez pris? À quoi moi je saurai que vous l'aurez pris? Quand est-ce que je le saurai? Quand vous aurez dit merci. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, on dit merci. Et Dieu a toujours une parole à nous donner. Mais c'est vrai que combien de fois on a voulu donner, des gens n'ont pas pris. Ce soir, le Seigneur se propose de vous donner la paix, de vous redonner la paix, d'avoir un cœur en paix, un cœur en paix. Vous avez vu ce qui se passe? Alors moi, j'ai peur de vous effrayer. Ça va s'aggraver. Est-ce que c'est écrit que ça va s'aggraver? Oui. Alors on va lire dans Matthieu, chapitre 23. Lorsque les apôtres, ils discutent avec Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus leur parle. Il est sévère avec les religieux. Jésus dit des choses importantes, comme entre autres ce qu'on va lire maintenant dans Matthieu, chapitre 24. Et pourtant, ces choses, si peut-être compliquées qu'elles pourraient penser au premier abord, eh bien, peuvent donner la paix. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont marché pendant, je ne sais pas moi, deux kilomètres. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc trois questions que les apôtres posent après avoir entendu cette parole, à savoir que le temple serait détruit. Alors, on va lire maintenant au verset 32. Des explications ont été données, mais on va lire que celle-ci. Matthieu 24, verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que ce qui s'est passé, lorsque le déluge a été envoyé sur la terre, alors si vous lisez dans la Genèse, vous voyez que qu'est-ce qui se passait pendant le déluge? Vous vous rappelez ce qui se passait avant le déluge? Comment elle était la terre? La terre était pleine de violence. Les hommes étaient corrompus. Alors il est parlé de mariage. Est-ce qu'il y a du mal à se marier au fait? Les hommes se mangeaient et buvaient. Bon, mais jusque-là, est-ce que ça vous arrive de manger? Est-ce que ça vous arrive de boire? Pas de vous alcooliser, mais de boire. De marier, est-ce que c'est normal de se marier? Mais oui, mais ça veut dire que les gens ne pensaient qu'à ça. Ils ne pensaient pas à Dieu. Ils invoquaient Dieu, c'est étonnant parce que, regardez avec moi, c'est quand même, il y a des choses étonnantes. Juste avant le déluge, regardez avec moi. Il y a un verset, moi, qui m'a beaucoup interpellé. Dans la Genèse, au chapitre 4 et au verset 26, il y a quelque chose qui est très étonnant. Les hommes se sont multipliés, les gens ont choisi le mal, ils ont choisi le mal. Ils ont choisi la violence, ils ont choisi la corruption. Vous écoutez les informations, vous avez vu nos politiciens, comment ils sont droits et honnêtes. Vous avez vu comment ils sont corrompus. C'est impressionnant. Eh bien, il en sera de même. Regardez ce qui se passait avant le déluge. Regardez bien quand même. Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut un fils, qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà, c'est la première fois où on voit que les hommes y prient. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Vous ne me répondez pas? Est-ce que c'est bien? Oui, à quoi ça servit? À rien. Ils commencent à prier Dieu, les hommes se mettent à prier le Seigneur, et ça a servi à rien. Vous êtes d'accord avec moi? La preuve, c'est que quand le déluge est venu, il les a emportés tous, à part Noé. Noé, ça veut dire repos, qui a obéi, qui était sensible, qui voulait savoir, il a dit qu'il marchait avec Dieu. C'est un homme qui avait décidé d'obéir au Seigneur, et malgré tout ce qu'il y avait autour de lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont été combien dans l'arche? 8 personnes. On se dit, mais c'est pas possible. Juste une famille. Et pourtant, ils étaient prêts. Quelle grâce. C'est triste, mais en même temps, ça prouve quoi? Eh bien, que quand quelqu'un veut rester fidèle à Dieu, il reste fidèle à Dieu. Que si quelqu'un veut obéir, eh bien, il obéit. Que si quelqu'un veut être prêt quand la faim viendra, quand la colère viendra, eh bien, il sera prêt. C'est pour ça que Jésus dit, mais je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Ne vous troublez pas, ne faites pas comme les gens du monde. Eux, ils ont fait leur choix, même s'il y a beaucoup de blabla, même si certains prient, même si certains vont à l'église, parce qu'il est dit que les gens priaient. Ils priaient le Seigneur. Et c'est vrai que ce verset, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais ça servait à rien. Est-ce que vous priez pour rien? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour rien, d'après vous? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour rien? Eh bien oui. La seule prière qu'ils devraient faire, c'est pardon. Si je suis dans le péché, je peux dire ce que je veux, ça ne sert à rien. Si je suis dans le péché, la seule prière que Dieu exaucera, c'est « Seigneur, je te demande pardon du fond du cœur. » Et c'est vrai. Et j'arrête. Voilà, ça c'est la prière que Dieu exauce. Mais là, il prie. C'est vrai que ça fait pitié quand même. Les gens priaient. Et quand Noé prêchait, puisque la Bible dit que dans le Nouveau Testament, Noé était un prédicateur de la justice, que quand Noé prêchait, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il se moquait. Dites aux gens que Jésus va revenir. Dites aux gens que la colère de Dieu va venir sur la terre, que Jésus va venir chercher les chrétiens. Il vous regarde, mais t'es complètement taré. On vous a jamais dit ça? Mais non, mais tu rêves? Dites aux gens vraiment la vérité. Ils ne le croient pas. Ils se moquent de nous. Moi, ça m'est arrivé dans des enterrements. Vous savez, quand on est dans un enterrement, quand vous dites, mais vous savez, il y a un jour, la Bible dit que tous les morts en Christ ressusciteront et que nous, les vivants, nous serons enlevés. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors, les chrétiens, ils sont là, consolés. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, ils se regardent, ils sont comme ça. Des fois, ils disent, mais il n'est pas bien, ce pasteur. Ils se moquent. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la vie éternelle. Ils ne croient pas aux choses de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez à moi, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et c'est pour ça que j'ai dit, oui, le seul moyen d'avoir la paix, c'est de croire la parole de Dieu. Et les apôtres, ils ont eu besoin, à la sortie du temple, Jésus a enseigné dans le temple, et à la sortie, je ne sais pas, ils ont dit, t'as vu quand même. Hein. C'est vrai que, moi j'ai entendu des témoignages que le temple, au lever du soleil, ou au coucher, quand le soleil frappait le temple, il paraît que c'était merveilleux, que ça se voyait de très très loin, que c'était un magnifique temple. Et Jésus leur dit, mais il ne restera rien. Et eux, ils ont compris, bien sûr. Et ils ont, mais quand est-ce que ça arrivera? Quel sera le signe de ton avènement? Eh bien, ça sera pareil que du temps de Noé. Du temps de Noé, les hommes ne pensaient qu'à s'amuser. Les gens ne pensaient qu'à boire. Les gens ne pensaient qu'à se marier. En plus, quand on regarde le contexte en hébreu, tout ça, même si je ne suis pas trop calé ou en grec, les gens se mariaient, etc. Ça veut dire que les gens avaient des relations sexuelles hors mariage. Ils n'étaient pas en règle. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Voilà, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Combien de gens, sur 10 couples, il y en a combien qui sont mariés aujourd'hui, sur 10 couples de 20 ans? Comment? 0,5, je ne sais pas, en tous les cas, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est exactement ce qui se passe. Et nous, le Seigneur dit, mais quand vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble pas. Il en sera de même. Des fois, on entend les chrétiens qui disent, mais je prie pour qu'il y ait la paix en Israël. Est-ce qu'il y aura la paix en Israël? Mais non, il y aura la paix pendant le millénium. Mais jusqu'à ce que Jésus enlève l'Église, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne régner sur terre, il n'y aura pas la paix. Et ce fameux processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens est en vérité, quand vous regardez bien les infos, un processus de guerre. Ça ne fait qu'amplifier, parce que les informations, ils ne vous le montrent pas. Ils vont vous montrer aux informations comment le mimosa fleurit au mois de février. Mais je peux vous dire que ça, c'est des reportages. Les vraies informations, on ne les a pas. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe au Liban, comment l'Iran arme le Hezbollah au Liban, etc. Ça vous intéresse pas. Mais en tous les cas, ça prépare la bataille d'Armageddon qu'il y a dans Ézéchiel 38. Tout ça, on ne le sait pas. Mais ceux qui le savent peuvent dire, moi, j'ai la paix. Ce soir, le Seigneur vous dit, soyez en paix. Soyez en paix, rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche. Au tribunal, un jour, on va y passer devant le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'un jour, vous allez passer devant Dieu? Quel jour merveilleux, quel jour glorieux, quel jour formidable, quel jour extraordinaire. Pour ceux qui ont accepté Jésus, quel jour terrible et plein d'effroi. Pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Quel jour merveilleux. D'ailleurs, Jésus est clair. Il dit, ceux qui m'auront suivi, ils entendront, venez, bénis, bénis de mon Père. Et les autres, ils entendront, retirez-vous de moi, maudit. De la bouche du Seigneur Jésus-Christ, ça fait quand même peur. Oui, il en sera de même. Jusqu'au jour où Noé rentrera dans l'arche. Est-ce que vous êtes rentré dans le corps de Christ? Parce qu'on peut dire, mais oui, mais je vais à l'église, d'accord. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous vous êtes repenti? Vous vous rappelez cette situation où un jour les Juifs ont posé des questions? Il y a des questions qui ont été posées, c'est bien. Quand ils étaient choqués parce qu'il y avait des gens qui avaient offert un sacrifice, et Pilate, qui était justement un homme très intelligent, Pilate avait mêlé le sang de leur sacrifice au sang de ces gens qu'il avait fait tuer. C'est terrible, ça vous rendez compte? Ils offrent des sacrifices, Pilate ne s'appelait pas Pilate, et Pilate fait mêler le sang de ces gens, il les tue, et après il dit, et cette tour qui est tombée sur 18 personnes qu'elle a tuées? Vous vous rappelez, Jésus dit, et Jésus leur dit, mais écoutez, ne vous occupez pas de ça. Enfin, je vous le fais en français moderne. Occupez-vous de votre âme. Et c'est vrai que c'est facile de juger quelqu'un, mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous occupions de notre âme. Et ces histoires, elles ne peuvent nous donner la paix que si nous disons, mais moi aussi, je suis rentré dans le royaume de Dieu. Est-ce que tous les croyants sont rentrés dans le royaume de Dieu? Est-ce que tous les gens qui vont à l'église sont rentrés dans le royaume de Dieu, d'après vous? Est-ce que tous les croyants sont de véritables disciples? Est-ce que tous les croyants sont nés de nouveau? Eh bien non. Beaucoup de croyants vont à l'église par superstition. Beaucoup de chrétiens vont dans l'église au cas où, si c'est vrai. C'est vrai. Mieux vaudrait que je sois du bon côté. Pourquoi vous allez à l'église? Ben, au cas où. Il y a les chrétiens du au cas où. Vous voyez, au cas où, c'est vrai. Pour vous dire comment ils sont nés de nouveau. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont superstitieux. Je vais à l'église au cas où. On ne va pas à l'église au cas où. On va à l'église parce que Jésus-Christ s'est révélé à notre cœur. Il nous a montré ce qu'il a fait au calvaire. Lui, le Dieu qui a tout créé dans le ciel et sur la terre, il est venu sur la croix porter votre péché, pour que vous puissiez rentrer. D'ailleurs, il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous devons prendre ces choses au sérieux, parce que de la même manière que quand l'arche a été finie, qui c'est qui a fermé la porte ? C'est Dieu qui a fermé la porte. Ça veut dire que c'était terminé. Et un jour, on va terminer avec cette prophétie, parce que c'est quand même la prophétie peut-être la plus terrible du Nouveau Testament. Dans Luc au chapitre... Alors, c'est au chapitre 13. Dans Luc au chapitre 13, il y a une prophétie terrible. Il y a des paroles d'encouragement, il y a de l'enseignement. Dans la Bible, il y a même de la poésie, mais il y a des prophéties aussi. Et une prophétie biblique, croyez-moi, s'accomplira. Luc 13, verset 24. Là aussi, les apôtres se posaient des questions. Pourquoi y a-t-il peu de gens qui soient sauvés ? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Sur 100 personnes, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Il y en a 1, 2, 3. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens en France. Luc chapitre 13, verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. » Vous voyez, comme du temps de Noé, il a fermé la porte. C'était trop tard. Pourtant, combien de jours après, est-ce qu'il a plus de suite, au fait, quand la porte s'est fermée de l'arche, combien de temps il a mis pour pleuvoir ? Vous vous rappelez ? Oui, une semaine. Alors j'imagine les gens, vous voyez, qui avaient, quand Noé disait, voilà, une fois que l'arche sera finie, Dieu va envoyer un déluge. Et la porte a été fermée, tout était fini. 7 jours, c'est court et c'est long en même temps. C'est court ou c'est long ? Ça dépend. Quand vous souffrez, 7 jours, c'est long. Quand vous avez mal, 7 jours, c'est long. Quand tout va bien, c'est court. Et pendant 7 jours, les gens se disent, mais vraiment, le pauvre Noé, il avait un problème. Il a vraiment, vraiment, vraiment un problème. 7 jours à se moquer, ils ont dit, je suis sûr qu'il devait regarder, non, mais où elle est cette flotte, où elle vient pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et ça fait 2000 ans que... 2000 ans, est-ce que c'est beaucoup 2000 ans ? Pour nous, oui. Pour Dieu, ça correspond à quoi 2000 ans ? 2 jours. Et la Bible dit, justement, par rapport à mon cœur, mais vous ne devez pas prendre ces choses à la légère, parce que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc pendant 7 jours, ils ont dû rire, mais regarde ça, ils devaient se téléphoner toutes les 5 minutes, regarde, s'envoyer des textos, des mails, regarde, non ? Non ? Bon, vous avez compris. Ils devaient en parler dans toute la région, tout le monde, je suis sûr que tout le monde parlait de ça, le soir, aux infos, etc., ils devaient tout ça. Mis à part l'allusion, je suis sûr que c'est vrai. Mais au bout de 7 jours, il a commencé à pleuvoir. Et là, c'est pareil. Quand le 7, ça représente le chiffre parfait, quand le temps parfait de Dieu sera écoulé, l'Église sera enlevée et la colère de Dieu va venir sur la terre. Est-ce que vous êtes rentré dans l'arche ? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi aussi, je veux passer par la croix ? Le seul moyen d'être sauvé, c'est la croix. C'est de passer par la croix, c'est de passer par le calvaire. Parce que là où on passe au calvaire, le jugement n'existe plus. Parce que le jugement, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Alors, est-ce que vous pouvez dire, oui, j'accepte Jésus-Christ. Si vous voulez aller au ciel, ne dites pas, je prends le baptême. Moi, j'ai vu des gens qui ont pris le baptême. J'ai entendu une jeune fille, vous savez ce qu'elle a dit le jour de son baptême ? Pas ici, hein. Je ne pense pas que ça peut arriver. Vous savez, alors, c'était à la télé en plus. Et le journaliste pose la question, il a posé la question à tous les jeunes qui prenaient le baptême. Mais ils ont passé, je pense, les témoignages les plus marrants. Et il a dit à la jeune fille, pourquoi vous prenez le baptême ? Vous savez ce qu'elle a répondu, mot pour mot ? Ben, vous savez, il y a longtemps que je voulais faire quelque chose pour Dieu, alors j'ai réfléchi et j'ai pris le baptême. Elle avait pris le baptême parce que elle voulait, comme une œuvre. On ne prend pas le baptême pour faire quelque chose pour Dieu. On prend le baptême parce qu'on a été convaincu des péchés. Et que cette conviction de péché nous fait prendre conscience que si on ne donne pas son cœur à Jésus, on va aller en enfer. Et l'autre, pareil, disait, ah, moi je prends le baptême parce qu'on m'a conseillé de prendre le baptême. On ne prend pas le baptême parce qu'on nous conseille de prendre le baptême. On prend le baptême parce qu'on veut s'engager à ce que Jésus soit notre sauveur et notre Seigneur. Et on veut être lavé dans le sang du Seigneur. Noé, il représente les gens qui sont rentrés dans dans l'arche, dans l'église. Ils sont là, je suis dans l'église, ce n'est pas un bâtiment dans telle adresse. L'église, c'est le corps de tous les croyants qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et qui sont dans la paix, même si les choses vont empirer. Moi, je vous le dis, les choses elles vont empirer. Partout sur la terre. Ça vient comme un filet. On va lire. J'avais dit qu'on terminait. Allez, on termine quand même. Mais regardez. Parce que les gens me disent, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il y aura un réveil mondial. Ça va s'arranger. Eh bien, écoutez, moi, quand je lis la Bible, je crois qu'il peut y avoir un réveil mondial. Je le crois. Mais en même temps, je crois aussi que les choses s'aggravent. Luc 21, regardez, versets 34 à 36. Regardez bien cette parole. Ce sont des prophéties. Ça veut dire que c'est ce qui va arriver, ou c'est ce qui est en train d'arriver. Luc 21, verset 34. D'un côté, Dieu donne la paix, il la donne, et de l'autre, pour qu'on l'ait, il nous donne des exhortations. Qu'est-ce qu'il dit ? Prenez garde à vous-même. Oui, il faut faire attention. De peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Est-ce que c'est bien d'avoir à manger et à boire, au fait ? Ben oui, c'est une grâce, hein. D'avoir à manger. Je ne sais pas si vous le réalisez. Mais il faut faire attention que ces choses-là ne nous éloignent pas de cette dépendance de Dieu. Les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de... Non, pas de la terre. De toute la terre. Donc ça veut dire que c'est mondial. Vous le lisez comme moi, c'est pareil. Vous avez comme ça dans votre Bible ? Sur la surface de toute la terre. Toute la terre est concernée. Il y a des gens qui disent, oh, moi, je vais aller vivre aux Bahamas, je serai plus tranquille, il fait beau toute l'année. Non, ça sert à rien. Ça arrivera sur la surface de toute la terre, comme un filet, ce filet de l'oiseleur, vous savez, où quand les oiseaux voient le filet, c'est trop tard. Ils sont pris, et c'est ce qui est en train d'arriver. Le monde est en train de ressembler à un filet où les gens sont pris par tous les pièges de l'ennemi, mais le chrétien qui réécoute Dieu, il reçoit la paix. Dieu lui donne la paix, il prend garde, il se réjouit. C'est sûr que je ne sais pas comment Noé... Je ne sais pas, parce qu'on peut spéculer comment Noé regardait tous ces gens. Parce qu'est-ce qu'il a vu tous ces gens se mourir noyés ? Oui, sûrement. On ne peut pas... Il a dû le voir. On va en voir des choses terribles. Mais si on est dans l'arche, le Seigneur continuera à vous dire « Je te donne ma paix. Je te laisse ma paix. » Et la paix, c'est pas « Merci Seigneur. » Je ne sais pas si vous avez mangé ce matin, si vous avez mangé à midi. Peut-être que vous allez manger tout à l'heure. C'est des bienfaits insoupçonnés d'avoir mangé tous les jours. Mais la paix, c'est pas un bienfait. C'est le bienfait. Parce que pour avoir la paix, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci Seigneur, parce qu'il est dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Il est dit qu'il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Il donne à manger aux chrétiens. Le Seigneur, est-ce qu'il donne à manger aux païens ? Et oui, il donne à manger aux païens. Il donne à manger à tout le monde, parce qu'il est bon. Mais la paix, il ne la donne qu'à ses enfants. La paix, ce n'est pas le bienfait avec un petit b, c'est un bienfait avec un b majuscule, parce que pour avoir la paix, pour sortir de ce temple avec la paix, pour vous coucher tout à l'heure en paix, pour vous lever demain matin en paix, il a fallu que Jésus-Christ meure sur le bois de la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Béni soit le Seigneur. Cette paix, ou vous la prenez, ou vous ne la prenez pas. Mais ça vaut la peine de dire, moi j'ai besoin d'être à l'abri du jugement, à l'abri de la colère, à l'abri de ce filet qui vient. Je sais qu'il y a un Dieu qui donne la paix. Oui, il donne la paix. Et je pense que les gens qui partent à l'enfer tous les jours, qui partent dans l'éternité, qui se sont moqués du Seigneur, je pense qu'ils redonneraient, comme le mauvais riche dans la parabole, ils donneraient 15 secondes de leur temps pour venir faire une prière. Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi ton sang précieux. Donne-moi ton nom, que mon nom soit marqué dans ma vie, que je sois marqué, que mon front soit marqué, mon front spirituel soit marqué par ton nom, Seigneur Jésus. Oui, je vous donne ma paix. Il en sera de même, ça ne va pas s'arranger. Alors que Dieu nous garde, et il va nous garder. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il vous gardera ? Oui. Est-ce qu'il vous protégera ? Oui. Est-ce qu'il vous conduira ? Oui. La Bible n'arrête pas de dire que ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront de rien. Alléluia. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. paix. Ne soyez pas comme le monde. Recevez toujours l'amour, la grâce, le pardon, la faveur de Dieu. Restez couverts sous son sang précieux, comme Moïse était à l'abri de la colère dans l'arche. Vous êtes à l'abri du jugement si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Notre Père, oui, nous te bénissons. Parce que tu nous as laissé ta parole pour continuer à donner la paix. Même si nous l'avons perdue, nous pouvons la poursuivre et l'obtenir. Seigneur, merci pour la paix. Merci parce que tout à l'heure, comme David le disait, oui, nous pourrons nous coucher et nous endormir en paix. Parce que tu nous protèges et que tu nous gardes. Seigneur, merci pour l'arche de l'Église. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le nom de Jésus qui nous permet d'être gardés, protégés. Et qui nous permet, oui, comme on l'a chanté, le jour du tribunal, le jour du jugement, de savoir que nous sommes tes enfants bénis comme Noé l'était avec son épouse et ses enfants. Seigneur, nous nous plaçons sous ton sang précieux. Seigneur, nous ne voulons pas être des superstitieux, des religieux, des chrétiens de nom. Nous voulons être de véritables disciples qui croyons ta parole et qui te remercient. Oui, merci pour la croix, parce que cette croix nous donne la paix. Merci Jésus, du fond du cœur. Oui, Pilate a été condamné, mais nous nous sommes justifiés. Parce que nous te voulons que tu règnes dans notre cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.